Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est votre dernier énervé de la saison. Mais ne soyez pas tristes car vous pouvez en profiter doublement dès 18h comme toujours, hein, en avant-première sur franceinter.fr et en podcast ou alors 22h minuit à l'antenne comme tout le monde. Et le mieux c'est de faire les deux en fait, d'écouter à 18h et pour bien comprendre ce qui s'est dit et se dire bah, il s'est vraiment dit ça, on revient à 22h, on n'a que ça à foutre. Ce soir pour la dernière, je vous propose un séjour en thalasso avec Gérard Depardieu et Michel Houellebecq. C'est le duo imaginaire et créé par Guillaume Niclou au cinéma, au programme des soins, de l'alcool, du tabac, pour un duo décontracté du gland, et c'est extra. Guillaume Niclou, bonsoir.
Bonsoir.
Après la thalasso, un tour de France avec Noël Herpe qui signe ses souvenirs écrans, le récit de son périple dans une quarantaine de villes en VRP du cinéma d'Henri-Georges Clouzot, ou l'autoportrait parfois burlesque d'un historien du cinéma, écrivain, cinéaste, à la recherche de son passé familial. Noël Herpe, bonsoir.
Bonsoir.
Les dernières nouveautés nouvelles du jeudi de Marion Guilbeault, vous annoncez ce qui sort demain, mais aussi j'imagine tout l'été.
Un peu tout l'été, ça va être mes recommandations pour la plage, Laurent, enfin, vous allez voir. C'est le retour du refoulé avec Les années 90, revisité par Julius Spellman et Sarah Sarah. Et puis il y aura aussi de la lutte des classes dans l'air avec le groupe Gauche. Oui, il s'appelle comme ça,
c'est
Gauche.
C'est cool comme nom.
C'est bien. Et dans le Énervé la suite, on joue Christophe si je vous dis consonne.
P, c'est trop
consonne.
M.
Voyelle.
A.
PMA, le compte est bon, Christophe Bourseiller.
C'est génial, vous êtes génial. Laurent.
C'est vrai.
Et vous le connaissez, vous, votre donneur ou pas?
Oui, c'était mon père.
Ah oui, c'est ça. Ben moi aussi, j'ai un donneur, une donneuse. Par contre, c'est pas le cas d'Arthur Kermalvesen,
ben si,
qui est
né aussi
sous PMA, oui, donc, et qui a un père et un donneur, et qui a écrit un livre très émouvant qui s'appelle Le Fils, dans lequel il part à la rencontre de son donneur. Il y a également dans l'émission, puisque c'est un débat, comme vous le savez, voilà, il y aura donc Irène Théry, qui est sociologue de la famille, qui est assez critique vis-à-vis de la PMA.
Elle a signé une chronique. Ouais.
Oui, tout à fait. Alexandre Urvix, lui, il est président de l'association des familles homoparentales. Et Jean-Louis Touraine, député La République En Marche du Rhône, lui, il est partisan de l'extension des techniques de procréation et il a porté la loi, le projet de loi dont Marlène Schiappa aujourd'hui est le porte-étendard.
C'est une sorte de donneur de loi, en fait.
Il y a,
de,
il y a les donneurs de sperme et les donneurs de loi. Vous voyez,
c'est pas pareil. Énervé, c'est parti.
C'est pas les mêmes.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Marion est estomaquée par ce duo comique.
C'est brillant.
Bientôt
c'est
les frères ennemis ou Roger
Chaud et Frigo,
et
voilà, tout ça.
Les frères ennemis, il y en a un qui s'était enfui, vous savez, on l'a jamais retrouvé.
C'est
hein.
un peu notre histoire, ça.
Vous vous souvenez de ça, Guillaume Niclou, les frères ennemis,
Un qui a disparu.
Complètement disparu, C'est ce qui pourrait vous arriver, vous savez.
Je suis capable de tout et vous aussi, je vous connais trop bien.
Allez, thalasso pour vous ce soir, Guillaume Niclou, dans un, avec un duo excellent, Houellebecq et Depardieu réunis au cinéma. Des souvenirs écrans pour vous, Noël Herpe, avec un tour de France pour montrer et commenter le cinéma d'Henri-Georges Clouzot, entre autres. Vous vous connaissiez l'un l'autre?
Pas du tout. Non. On s'est rencontrés dans la loge.
C'est parfait.
Avec
on a immédiatement sympathisé.
Et vous avez parlé de quoi?
On a dit du mal de plein de gens.
Ah, c'est la meilleure chose qui pouvait
nous
arriver.
On a dit du mal de vous, Laurent.
J'espère bien. Il est petit.
On a parlé de la cinéphilie, on a parlé de l'état parfois un peu déprimant de la cinéphilie et de l'autorisme, du fait qu'on a du mal à intéresser aujourd'hui le public au cinéma, disons, de répertoire, ou tout simplement au cinéma d'auteur.
Vous pensez ça aussi, Guillaume Niclou? C'est quelque chose que vous partagez? Parce que je sais que c'est le cheval de bataille et la vie de Noël Herpe, justement, cette cinéphilie. Et vous?
Oui, mais en même temps, c'est pas désespérant du tout. En fait, moi, je suis pas du tout... Il y a pas de sanctuarisation. Enfin, je suis pas passéiste. Je pense que le monde évolue, le monde des images notamment, et la façon dont le public, maintenant, utilise le terme « consommer » plutôt qu'aller au cinéma ou regarder un film. Donc, il y a une nouvelle mécanique du regard qui est en train de s'articuler. Et l'hypnose, ce que proposait le cinéma ou ce que propose la captation d'images sur nos yeux... est en train de bouger. Voilà. Maintenant, regardons comment ça se passe avant de s'affoler. Et puis, essayons de profiter du mieux possible de ce qui nous arrive.
La cinéphilie, pour vous, comment vous l'avez construite, Guillaume Niclou?
Elle a démarré par la télé. Ouais. Moi, en fait, j'ai été capté et intéressé au cinéma, en dehors des films de Walt Disney que m'emmenaient voir mes parents, par le ciné-club et le cinéma de minuit.
Ouais, bien sûr.
C'est là que j'ai découvert en cachette, parce que j'avais pas le droit de me coucher, il y avait école le samedi matin. Le dimanche soir, je pouvais pas non plus rester, donc je me planquais derrière le canapé et je suivais les films. Alors ça allait de, je sais pas, du cycle Bergman, mais en même temps le manuscrit trouvé à Saragosse, Frixe. Voilà, c'est comme ça qu'à 10, 11, 12 ans, j'ai commencé à forger des images que j'arrivais pas forcément à comprendre, mais en tout cas, je ressentais. il y avait quelque chose de très impressionniste.
Et de votre côté, Noël Herpe?
Oui, exactement. Le ciné-club, cinéma de minuit. Moi, j'ai même connu au cinéma ce soir d'Armand Panigel. C'est dire si je suis un ancêtre. Mais c'est vrai qu'il y avait des scènes absolument homériques où mon père me disait « Non, Noël, tu ne regarderas pas l'année dernière à Marianne Bad. » Et là, il était minuit et je pleurais toute la nuit parce que mon père m'interdisait de regarder ce film qui, pour lui, n'était pas fait pour les enfants.
Ah bon?
Il avait bien raison, d'ailleurs. Et du coup, j'ai revu l'année dernière à Marianne Bad au moment où c'était possible et ça m'a profondément ennuyé. Donc, c'est aussi la question de la frustration. Est-ce qu'il n'y a pas besoin pour aimer le cinéma, ou l'aimer d'une certaine manière, est-ce qu'il n'y a quand même pas besoin que l'objet se dérobe, qu'il soit rare, qu'il soit un peu sacré, qu'il soit ritualisé?
Qu'on vous l'interdise.
Qu'on vous l'interdise.
Très bien. Clouseau, ça représente quoi pour vous, Guillaume Niclou?
Bah, une part de la cinéphilie, en effet, ouais. De découverte. Là, un peu plus tardive, puisque Clouseau, je pense que c'est aux alentours de 13-14 ans que les premiers films sont arrivés à moi. Et bah, des plans, surtout l'impact de certains plans. Plus que l'organisation du scénario, de l'histoire. Donc vraiment la force de certaines images. Comme le cinéma de Franjus. C'est pour ça que je fais souvent un petit lien entre Clouseau et Franjus. Je trouve qu'il y a quelque chose qui appartient au cinéma muet. Enfin, à la force, à la puissance des images et non pas de ce que le texte raconte en plus.
Puisque vous parlez de Franjus, peut-être un mot sur la disparition d'une actrice...
Edith Scob.
Edith Scob, hein.
Une merveilleuse actrice qui avait joué avec Franjus dans Les yeux sans visage, dans Thérèse Descairous, ouais. Dans La tête contre les murs, qui était une actrice poétique et suave et mystérieuse et inquiétante.
Vous l'aviez rencontrée?
Oui. Non, je l'ai jamais rencontrée, mais je l'ai vue sur scène dans une sorte d'opérette expérimentale qu'elle avait faite avec son mari, Georges Apergis.
Mais oui, bien sûr.
Qui était assez formidable. Et puis elle avait joué aussi dans un feuilleton culte de notre enfance, La poupée sanglante.
Formidable.
Depardieu, Houellebecq, pour vous, qu'est-ce que ça représente, Noël Herpe? Depardieu d'abord.
Depardieu, la dernière grande star du cinéma français, un acteur à la fois monstrueux et magique, avec une poésie extraordinaire. Une poésie...
Associée à des films précis, quand vous
pensez à lui? Oui, je pense au film de Ferreri, notamment.
Ah
oui,
ouais.
Et puis même au premier film de Claude Sauté, où il était d'une beauté quand même... à tomber par terre, mais il y a toujours une poésie chez Depardieu, oui, et un côté assez Michel Simon en même temps, hein. Un mélange de monstruosité et de fantaisie qui me fait penser à Michel Simon.
Vous êtes d'accord là-dessus, Guillaume Niclou? C'est bizarre de penser à Sauté.
Non,
mais pour vous, ouais.
Non,
parce que
chacun...
Sauté, c'est vrai, moi je ne pense pas du tout à Sauté.
Parce que chacun,
elle a débuté chez Sauté.
Ouais, je sais, mais c'est vrai que je ne pensais pas ça.
À la part de mystère et de magie qu'il véhicule. Donc moi non, je suis dans un autre monde avec Gérard. Moi je l'ai découvert enfant et j'ai pu le rencontrer, j'ai pu le faire tourner 4 fois en 5 ans. Donc je sais que j'ai profité d'un moment exceptionnel en fait. J'ai même joué avec lui dans un court-métrage, donc tout ça en 5 ans. Donc je me dis, il y a 6 ans, on m'aurait dit ce qui allait arriver. Non, j'aurais dit c'est pas possible d'abord. J'ai pas de scénario pour lui, puis il n'y a aucune raison que ça arrive. Donc non, là, c'est très étonnant quand votre mythologie cinéphilique rejoint le désir que vous avez aujourd'hui de créer quelque chose. Et si cette personne rentre dans votre espace de création, d'un seul coup, tout ça devient très poreux. C'est-à-dire qu'il y a toutes les images, tout ce qui a impressionné en vous, qui vous a instruit, cultivé, et la possibilité de partager avec lui un moment de création également. Ça, c'est assez fascinant.
Et puis, de toute façon, votre Depardieu est plus du côté de Piala que du côté de Claude Sauté, manifestement. Bon, ça, on va en parler tout à l'heure, Guillaume Niclou. Et Houellebecq, qu'est-ce que ça représente pour l'écrivain aussi que vous êtes, Noël?
C'est compliqué pour moi, car je l'ai découvert grâce à deux personnes que vous connaissez bien ou avez bien connues, qui sont Dominique Noguez et surtout Mishka Assayas, qui m'a fait lire, il y a 20 ans, Extension du domaine de la lutte. Ça m'a fait beaucoup rire, ainsi que Les particules élémentaires, mais j'avoue que je ne suis jamais totalement rentré dans l'univers de Houellebecq. Il se trouve qu'aujourd'hui, la presse me fait l'honneur de me comparer à lui sur certains aspects de mon livre. Je ne prétends pas me comparer à lui, Dieu sait, mais il y a chez lui une me semble-t-il une noirceur, une cruauté. C'est l'image que j'ai de lui qui me gêne un peu, car j'ai l'impression qu'il a quand même une vision très négative de l'humanité. Et c'est quelque chose qui me met un tout petit peu mal à l'aise et qui fait que j'ai un peu de mal à rentrer dans son univers, comme j'ai du mal à rentrer dans l'univers de Céline. J'ai besoin, pour aimer un écrivain, pour accrocher à un écrivain, qui est quand même un minimum d'idéalisme.
Parfait. L'idéalisme, on en parlera aussi avec vous par rapport à Souvenir Écran. On vous a demandé à chacun des sons pour faire plus amplement connaissance. Du cinéma, ça tombe bien, c'est pour vous, Guillaume Niclou.
C'est d'après le roman d'Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georges Lamolle.
Alors ça, c'est vraiment formidable, parce que généralement, on nous demande, bien sûr, la musique du Mépris de Jean-Luc Godard, et pas le générique. Et pourtant, le générique est un joyau déjà en lui-même, Guillaume Niclou.
Oui, alors c'est très banal en même temps. Hein. Mais en même temps, moi, je me lasse pas, parce que c'est la découverte à ce moment-là de la magie du cinéma. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on me montre, je suis enfant, et c'est la première fois qu'on me montre comment on fait du cinéma. C'est-à-dire, je vois le chef opérateur en train de me filmer, et la personne qui a fait le film me raconte que le film va démarrer, et on me place dans la situation du spectateur, et on vient filmer le spectateur. Et là, ça m'a marqué au point que lorsque j'ai eu la possibilité de faire un premier film très tôt, j'ai demandé à la personne qui était en train de filmer ce plan, qui m'a toujours fasciné. Donc c'est Raoul Coutard à qui je me suis adressé et avec lequel on a travaillé, j'ai eu la chance de faire 4 films avec lui.
Ce générique, il a un petit côté Sacha Guitry, non ?
Oui, Orson Welles aussi, oui. C'est le côté, un peu réflexif de la nouvelle vague. Personnellement, au risque de passer pour un mauvais coucheur, c'est pas le Godard que je préfère.
Préférez lequel ?
Bande à part. C'est vraiment la fraîcheur, la fantaisie, là encore, et une espèce de désinvolture. Oui, il y a le côté réflexif de la nouvelle vague. Oui, est très présent dans le Mépris. J'ai un peu. Bon, voilà, j'ai encore peut-être m'inscrire en faux, mais. Les cinéastes, à partir du moment où ils commencent à produire un discours sur l'œuvre...
Sacha Guitry produisait un discours sur l'œuvre.
D'une manière empirique, c'est-à-dire qu'il prétendait pas à tenir un discours. Or, j'ai l'impression que Godard, à partir du moment quand il fait Bande à part, quand il fait Vivre sa vie, qui pour moi son chef-d'œuvre, il reste dans une approche quand même assez libre, assez spontanée. Et il cherche. Et puis là, tout d'un coup, il y a un discours quand même dans le Mépris. Et j'avoue que ça me fait un peu peur.
Un animal. Dans une situation difficile pour vous, Guillaume Niclou. Qu'est-ce qu'on entend ?
Là, je pense que c'est un cochon qu'on égore.
Exactement, c'est ce que vous avez demandé.
Oui, mais alors c'est très bizarre parce que hier, on m'a demandé voilà, 3 sons. Et puis, c'est vrai que j'ai fait ça très rapidement.
Mais c'est
donc
pas mal.
Je n'ai pas réfléchi, c'était très spontané. Ensuite, je me suis dit, tiens, mais tu t'as demandé un cochon qu'on égorge, pourquoi ? Donc, je me suis dit, je devais être en train de souffrir au moment où j'ai fait cette liste. Enfin, il y a quelque chose, forcément, qui touche à l'inconscient. C'était pas... Puis après, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, tiens, à quoi je pense ? Je pense au film d'Eustache, je pense à plein de trucs. Et puis, je me dis, finalement, c'est pas bien de manger de la viande. Bon, je suis pas très... j'aime pas trop l'espèce de sectarisme, enfin l'espèce de volontarisme, en tout cas vegan, enfin tous ces trucs comme ça. Et puis je me dis quand même, il suffit de voir comment ça se passe, c'est quand même pas très beau, quoi. Et puis c'est assez contradictoire parce que c'est toujours fait dans la joie et la bonne humeur. On est un animal qu'on attache, qui est un animal qui ressemble quand même à un corps d'homme aussi. Et puis on l'ouvre, on le perce, tout le monde rigole, on boit du vin. Il y a quelque chose de très festif, enfin dans le côté sacrifice, avec des enfants qui ratissent la paille. On peut voir des films de Lina, il y a plein de
choses,
plein de témoignages étonnants sur la. Voilà, c'est on fabrique à manger en tuant un animal en direct. Il y a quelque chose d'assez spectaculaire, mais de joyeux, d'assez décontracté. Mais finalement non, c'est quand même assez dégueulasse.
Thank you.
Rockfishes, c'est de qui, Marion Guilbeault?
C'est des Anglais de Fat White Family.
Ils seront en concert à Sifour le 6 juillet, à Tours le 12 juillet, aux Nuits Secrètes d'Aulnoy le 28 juillet prochain.
Tu vois, j'aurais dû me présenter aux élections finalement. Je pensais pas que Macron, ça allait se casser la gueule aussi vite.
Le nouveau rendez-vous?
Et j'étais convaincu, puis il y a un ami qui m'a dit que j'allais me faire exécuter par les services secrets comme Coluche. Moi, ouais, je pense que je ferais mieux, là.
C'est de la merde, c'est politique. Ouais. Je ne voudrais pas être leur froc.
Laurent Goumard.
Et puis moi, j'aime bien être commandé par une femme.
Sur France Inter.
Encore Depardieu, encore Houellebecq, car ils sont devenus les héros récurrents de votre cinéma. Guillaume Niclou, ils forment le duo de Thalasso. Le film sortira en salle le 21 août prochain, donc c'est une avant-première ce soir avec vous. D'abord, à propos de Houellebecq, il y avait le projet de faire une série aussi à partir de son roman Soumission. Le projet est toujours...
Le projet est toujours d'actualité, mais ce sera un film.
Ah, ça sera un film, oui. D'accord. Vous avez déjà le casting? Je ne vous demanderai pas qui, parce que je sais que vous direz non, mais ah, le casting est prêt.
Personnage principal.
Super, très bien. Et Houellebecq, pas d'entretien, toujours pas?
Sauf le dernier, qu'on a fait ensemble.
Puisque... C'est vous qui avez donc les dernières paroles de Michel Houellebecq.
Voilà. Puisque Michel refuse depuis 2 ans d'accorder d'interview. Il m'a accordé en tout cas la mienne. Donc j'ai pu, interviewer Michel et puis Gérard. En même temps.
En même temps?
Oui.
Ah, donc c'était
un surplus. Enfin, j'ai eu un rab de Michel. C'est-à-dire que j'ai pu, après le départ de Gérard, interroger Michel encore.
Qu'est-ce que vous allez en faire de cet entretien?
Une partie concerne le film. Ouais. Donc, pour la promotion, enfin, des images qui seront données à certains médias.
Voilà, d'accord.
Et puis, une autre partie est plus personnelle. Je ne sais pas. Pour l'instant, elle est là. Elle est au chaud. Peut-être qu'elle sera dans le supplément DVD. Peut-être qu'elle servira à un autre projet, je ne sais pas du tout.
Gérard Depardieu et Michel Houellebecq se retrouvent en Thalasso, une drôle de rencontre dans un drôle d'endroit qui facilite bien sûr les contacts, les révélations, les confidences, parce que tout le monde est égal quand on est en peignoir et en chaussons. Tout y passe, la bouffe, la politique, le sexe, et puis des événements inattendus se produisent. Ça pourrait bien mal tourner, presque du côté du fantastique. Action, bande-annonce.
Réveillez-vous, monsieur. Je viens vous chercher pour votre soin. Vous avez la cryothérapie, là, ce matin.
Il n'y a pas de risque que les ongles se détachent?
Du tout. C'est hyper dangereux, surtout que t'es pas épais, toi. Ah, tu peux geler, ton os peut geler. Les couilles, c'est pareil.
Ma femme m'a demandé pour la bite. Ouais.
Aïe, mais pour que ça brûle, ça pique.
Non, du tout.
Mais ils connaissent rien. C'est des mecs qui sont au chômage, qui viennent là, qui prennent 2-3 cours de formation, et puis qui te brûlent la bite.
Quatrième film avec Gérard Depardieu, hein. Il y avait eu Valley of Love, The End, Les Confins du Monde, aujourd'hui Thalasso. Deuxième film avec Michel Houellebecq, il y avait eu L'Enlèvement de Michel Houellebecq. Trois.
L'affaire Gorgi.
Et l'affaire Gorgi, mais c'est vrai aussi.
Patron de la DST.
Exactement. Il a fait des progrès. Mais je sais que ça ne se négocie pas comme ça.
Il ne fera jamais de progrès parce qu'il est déjà à 100% au départ. Il est... Michel, c'est ça qui est intéressant avec les acteurs, c'est qu'ils ne jouent pas. Ce ne sont pas des comédiens.
Il y a des acteurs qui jouent.
Oui, mais ce n'est pas ceux que j'affectionne. Enfin, ce n'est pas avec ceux-là que je prends du plaisir, parce que moi, les acteurs ou les comédiens m'ennuient. J'aime les gens, j'aime travailler avec des personnalités. Et là, en l'occurrence, celles de Gérard et de Michel, elles sont assez singulières. Et donc, c'est avec les gens que j'essaie de fabriquer.
C'est pour ça qu'ils gardent d'ailleurs leur nom, leur identité, leur façon de parler, leur façon de se mouvoir dans votre film. Comment vous le dirigez? Parce qu'il y a quand même une direction d'acteur.
C'est
tu lui dis, tu te mets là et tu vas dire ça, non?
C'est particulier. Là, ce type de film conjugue plusieurs stratégies. Enfin, il y a un mode opératoire un peu particulier parce qu'il y a un scénario à la base.
Ouais.
Mais tout n'est pas dit dans le scénario. Il y a une partie des dialogues qui est donnée à certains, pas à d'autres. Et il y a toutes mes interventions pendant le tournage. C'est-à-dire que c'est pour ça que le film se tourne en continuité avec 4 caméras et qu'il n'y a qu'une prise à chaque fois, en fait, puisque j'interviens très souvent. Donc ensuite, ma voix est retirée. Là, je vous livre un peu la fabrication.
Non, mais c'est toujours intéressant.
Et c'est pour ça que cette espèce de spontanéité, de fraîcheur recherchée, et le véritable moteur, enfin la dynamo du film en fait. C'est que même si tout est structuré, on s'accorde quand on le souhaite ou quand le danger agréable arrive, ce moyen de profiter de l'événement et de nourrir ensuite l'histoire avec ce qui s'est produit, qui n'était pas attendu.
C'est quoi le danger agréable? C'est quoi cette expression?
Je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui tombe pendant la prise, mais qui justement nous permet d'aborder un sujet qui n'était pas prévu et de nourrir son personnage pour la suite. Ça, je prends un exemple qui n'est pas arrivé dans le film. Mais il y a d'autres comme ça, d'autres événements qui peuvent survenir.
Il y a du texte à apprendre?
Bien sûr. Ouais. Alors pour Gérard, c'est particulier parce que Gérard...
C'est le système post-it.
Depuis Valley of Love, je lui ai demandé de jouer avec une oreillette.
Avec une oreillette, d'accord.
Donc du coup, ça le libère complètement de cette entrave qui est le texte lu à apprendre et qui lui permet, pareil, d'être confronté à une espèce de réalité brute, très spontanée, où... le dialogue rentre dans une oreille et ressort directement par la bouche. Alors c'est pas doté à tout le monde. Tout le monde ne peut pas travailler de cette façon. C'est très particulier.
En fait, il est traversé par votre voix quand
oui,
il.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est pas mal.
Oui.
Ouais, c'est assez
et
beau.
Et puis
même.
Là, il est en plus perverti par mes interventions et Michel également. C'est-à-dire, par moment, si ça me plaît pas, j'interviens. Je dis non. Je dis plutôt ça. Parfois, il y a une opposition. Non.
Ouais,
parfois, ce qui est curieux, c'est qu'il me dit bah non, je peux pas dire ça. Parce qu'ils savent que c'est eux, mais ils sont quand même pris dans le jeu de la fiction. Donc c'est ce qui me permet moi aussi de faire un documentaire miroir. C'est-à-dire que l'alibi de la fiction leur permet justement d'être encore plus eux-mêmes que si je les interrogeais sur des sujets très précis. C'est ça l'avantage de la fiction dans le documentaire.
Comment vous comprenez ça, Noé Herpe? C'est pas mal, hein, comme
méthode de travail. Oui, je trouve ça très intéressant. C'est une tradition du cinéma français, finalement, cette manière de faire en sorte que se frottent le documentaire et la fiction. Ouais. Ça m'a toujours fasciné.
Chez Piala.
Chez Piala, mais déjà, par exemple, chez René Clément, quand il faisait Monsieur Ripoix et qu'il balançait Gérard Philippe dans un rôle de fiction dans les rues de Londres, et les gens le prenaient pour un vrai clochard. C'est très français, ça. Les Américains, peut-être, ont moins fait ça, de mélanger le documentaire et la fiction, et effectivement, de chercher une vérité documentaire à l'intérieur d'un scénario de fiction. Ça, je trouve, c'est assez passionnant.
Et finalement, on apprend.
Ça, ouais.
Enfin, on n'invente rien. Parce que tout part de la phrase de Christian Metz où tout documentaire est une fiction. À partir du moment où on inscrit dans un cadre des images, voilà, on invente une histoire.
Comment vous leur avez proposé le projet à tous les deux?
De façon très simple.
Est-ce que vous
j'ai appelé Michel, où je l'ai vu, je lui ai dit tiens, on va faire un film avec Gérard. Ça te va? Il me dit oui. Bon, puis j'ai dit à Gérard, on va faire un film.
Si c'est aussi simple que ça.
Oui, c'est aussi simple que ça.
Ah ouais.
S'il m'avait dit non, ça se serait arrêté. Maintenant, c'est une collaboration qui joue essentiellement sur un rapport. C'est la confiance. Et la confiance, elle est réciproque. Si j'ai pas la confiance, ce type de film ne peut pas exister.
S'ils s'étaient rencontrés avant, s'ils se connaissaient avant, est-ce que vous auriez fait le film?
Non. Non, j'aurais perdu l'excitation.
De leur rencontre.
Oui, et puis le challenge, l'idée, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais les convaincre de se retrouver tous les deux en peignoir, dans des figurines un petit peu de Laurel et Hardy, en les faisant parler de tous les sujets que les gens connaissent finalement, mais simplement au travers, la plupart du temps, des saillies verbales et des filtres que les médias leur imposent, en fait. Là, on a une heure et demie pour s'exprimer et pour découvrir que finalement, les saillies verbales, parfois, elles reposent sur quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus émouvant, où la colère fait partie du discours, et l'émotion surtout.
Quand ils se rencontrent pour la première fois à l'écran, lors de cette thalasso, est-ce que c'est la première fois qu'ils se rencontrent aussi véritablement dans la vie? Est-ce que vous êtes allé jusque-là, Guillaume Nicloux?
Non. On va pas raconter d'histoire. Ils s'étaient croisés avant.
Ouais. Hein. Oui, bien sûr, parce que vous les avez mis en relation.
Ils s'étaient juste croisés, bonjour, bonsoir, ouais, et puis paf, on y va. Ouais.
L'un était lecteur de l'autre? Depardieu lisait Houellebecq.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que Gérard aussi a écrit des livres. Donc,
ouais.
C'est comme si le plus grand écrivain français rencontrait le plus grand acteur français et que chacun avait mis un pied dans le domaine de l'autre. Donc, ils sont neufs l'un et l'autre, mais dans des disciplines différentes.
Alors là où il y a aussi une production très française, c'est que c'est un peu la comédie humaine chez vous, Guillaume Nicloux, puisque l'on retrouve des personnages, des gens, des acteurs qu'on a déjà vus dans précédents films. Et puis avec des motifs aussi qui reviennent. Par exemple, l'enlèvement chez vous, c'est un motif qui revient. Il y avait l'enlèvement de Michel Houellebecq, on se souvient, mais il y avait aussi Guillaume Canet et Vanessa Paradis qui s'étaient fait enlever dans La Clé. Par les mêmes d'ailleurs, je crois, plus
par
ou moins.
Par les mêmes ravisseurs,
ouais,
et
dans,
ravisseurs. Même maison
et dans la même maison
ouais. À Dédé Ginette, ouais. Qui sont les personnages récurrents
que l'on retrouve ici.
Oui, absolument. Ouais.
Ça signifie quoi, vous, ce rapport à l'enlèvement?
Ça signifie que je suis très attaché aux personnages et aux personnes. J'ai toujours beaucoup de mal à abandonner les personnages, à abandonner les gens d'ailleurs. Donc j'ai une espèce de lien très très fort avec... avec toutes ces figures qui construisent quelque chose au bout du compte. Et dès que j'ai besoin d'un personnage qui correspond en fait au costume, je fais appel à ceux que j'ai déjà connus et ceux avec lesquels je suis déjà en affection. Vous c'est ce qui s'était passé d'ailleurs quand j'avais réintroduit un personnage de détective et de flic dans La Clé, où le personnage de cette femme-là et celui d'une affaire privée étaient revenus.
Pourquoi vous n'apparaissez pas dans vos propres films alors même que vous avez été acteur ?
C'est arrivé.
C'est... Ah ouais ?
Oui, oui, c'est arrivé. Pour des copains, j'ai tourné dans un film de Gaspard Noé, j'ai tourné dans un film de Josiane Balasco, enfin dans des styles très très différents quand on me le demande et que ça me fait plaisir.
Je parlais de votre propre cinéma.
Ah, ça m'est arrivé, mais quand les acteurs étaient n'avaient pas pu venir.
Ah oui, d'accord, pour cette raison-là.
Oui, pour ces raisons-là. Jamais un rôle que je me suis écrit.
Parce qu'au départ, vous commencez par le théâtre.
Oui, mais ça, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre ce que c'est qu'une scène, c'est pour apprendre ce que c'est que le jeu, c'est pour apprendre ce que c'est que l'écriture. C'est pour me confronter à tous ces métiers qui composent, finalement, à la base, le cinéma.
Donc le théâtre, au départ, c'était pour faire du cinéma ensuite ?
Oui,
ah,
oui,
vous le saviez très rapidement.
Oui, bien sûr. Oui, c'était l'étape. Voilà. L'étape qui allait me conduire, je l'espérais, en tout cas, à un film.
Alors, il y a un motif aussi très important dans ce film, ce sont les valises. Sans rien dévoiler véritablement de l'histoire, à un moment donné, dans la chambre de Gérard Depardieu, c'est pas la chambre de Michel Houellebecq, il y a une installation de valises, une sorte d'œuvre contemporaine, oui. Des valises au pied d'un mur. Et puis la valise va avoir une histoire beaucoup plus importante par la suite du récit. Ça signifie quoi d'abord, est-ce que c'est véritablement une véritable installation? On pourrait y croire, hein.
C'en est une. Nous l'avons créée.
Vous l'avez créée.
Oui, c'est ça.
On a bien compris.
Oui, c'est ironique, c'est un peu moqueur, mais gentiment moqueur. Hein. C'est évidemment, si on la déplace et si on la met chez Perrotin, si on la met chez...
Elle marche.
Elle marche.
Alors, je peux penser qu'elle, si Emmanuel Perrotin, galeriste à Paris,
ça fonctionnera.
Elle peut marcher. Ouais. Le motif de la valise, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Pour qu'il soit devenu une sorte d'emblème de ce film.
Alors, c'est
une valise avec des
saucissons. C'est amusant parce qu'évidemment, rétrospectivement, ce type de question... me permet de regarder en l'air. Dans mon premier film, il y a un personnage qui trimballe une valise et qui la jette à un endroit très précis.
Mais c'est pour ça que je vous pose cette question.
Dans un village dans lequel finalement j'habite depuis 10 ans. Donc tout ça est très. Si on décortique évidemment tout l'éventail, c'est assez troublant en effet. On a l'impression que rien n'arrive sans raison en fait.
De toute façon, rien n'arrive sans raison.
J'aime bien le croire, oui. Ouais.
Le film devait s'appeler C'est Extra, en tout cas c'est comme ça qu'il avait été annoncé.
Oui, il était même accompagné de la chanson de Léo Ferré, il y avait une raison. Et puis finalement, il y a un procédé très curieux, c'est quand le film se met à avoir sa propre autonomie, son propre rythme, et puis décide par lui-même qu'il va abandonner, ce qui lui a permis de se construire. Sur La Religieuse, Mac Richter avait fait une très belle musique, en dehors de celle qu'il a composée avant, dont j'allais me servir. Il a fait un score dont le film n'en a pas voulu. Pas parce que la musique n'était pas belle, pas bien, c'est que le film n'en avait plus besoin. C'était intéressant de l'intégrer au début, et puis elle s'en est complètement émancipée.
Est-ce que vous avez le sentiment que Gérard Depardieu a changé votre façon de filmer? Quand on se confronte à cet acteur, est-ce que ça change la façon dont vous imaginiez votre propre cinéma? Et ça l'a fait basculer dans cette fiction documentaire.
Il m'a changé moi, donc il a forcément changé ma façon de filmer.
Vous vous voyez en dehors des tournages? Ou les tournages, pour vous, c'est le moyen de...
Non, ça arrive. Ça arrive.
Oui. Vous le suivez dans des pays étrangers?
Non. Non, mais c'est déjà très, très dense, très fort, lorsqu'on est ensemble pour construire quelque chose. Donc, on se voit, comme avec Michel, on se voit. Mais on se voit quand... Sans forcément prévoir ou sans rationaliser, il n'y a pas de rendez-vous, les choses se font, voilà, presque naturellement.
Comme ce cinéma.
On essaie, puisque le but c'est toujours de mentir le plus sincèrement possible, donc moins on utilise l'artifice, parce que c'est comme ça qu'on prend le plus de plaisir, j'ai l'impression aussi. Hein. Là, il n'y a pas de théorie, c'est juste d'essayer de ressentir et de trouver sa propre méthodologie et d'être le plus juste possible avec son désir. En fait, c'est ça le but. Et lorsqu'on l'a trouvé, on ne le perd pas. Puis on essaie de le cultiver et puis de profiter de ces moments-là.
Le plaisir, on pourra le retrouver le 21 août prochain. Il va falloir patienter. Il y a une série aussi, une semaine après,
sur Arte, en exclusivité sur Arte, et quelques jours plus tard, sur Netflix. Donc il s'appelle « Il était une seconde fois ». C'est avec Gaspard Ulliel et Freya Mavor.
Bon, vous retrouverez, j'imagine, sur l'antenne de France Inter, notamment peut-être du côté de notre ami Christophe Bourseiller, qui va animer une émission chaque jour le matin sur France Inter. Donc, vous restez avec nous, Guillaume Niclou. On va parler encore de cinéma et littérature aussi, avec notre autre invité, Noël Herp. Un frère, une sœur, Joséphine et Alexandre de la Baume, un rock garage et romantique. Voilà le synopsis de Film Noir. La mariée, entre parenthèses, Vagalam, c'est le titre à tiroir signé Film Noir, un extrait de leur premier EP attendu pour septembre.
Rendez-vous.
Elle ne joue pas la comédie de l'amour, du désespoir, du suicide.
Elle n'est pas contesté son suicide, on l'a tout de même trouvé agonisant.
On est arrivé à temps, comme d'habitude. Vous saviez qu'André Martineau allait revenir, vous l'avez reconnu à l'instruction. Donc, vous ne risquez pas grand-chose.
J'ai réfléchi à rien, je me suis précipité dans la salle de bain.
Pas tout de suite.
Si.
Comment ? L'homme que vous adorez vient de s'écrouler, il n'est peut-être pas mort, ça ne vous intéresse pas. Sans un regard, vous l'abandonnez.
Je pensais qu'à me suicider.
Vous pensez toujours à vous, il faut le reconnaître.
J'ai essayé, le revolver était vide.
N'aviez pas gardé une balle pour vous ? Sage précaution.
Je voulais mourir. Mourir !
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Ça me fait toujours les poils, comme on dit vulgairement. Un mot sur La Vérité, le film de Clouseau avec Bardot, Noël Herpe, vous qui avez signé la rétrospective Clouseau à la Cinémathèque il y a quelques années et qui avait fait le tour de 40 villes pour y présenter son cinéma. Tout est consigné dans le nouveau livre Souvenir écran, ce film.
Bah, La Vérité, oui, c'est un film que j'ai présenté à Cancale, qui est le berceau de mon enfance. Et effectivement, c'était marrant parce que les gens... La Vérité, c'est encore un film, les gens ont pu vivre cette époque-là. C'est-à-dire l'époque, par exemple, pour faire l'amour, on pouvait pas parce que généralement les jeunes étaient chez une vieille logeuse, c'est ce qu'on voit dans le film. Ils pouvaient s'embrasser sur les squares, dans les squares, mais
ou dans les escaliers, mais pas, ouais.
C'est
pas à domicile.
C'est un film qui annonce beaucoup mes 68, La Vérité, qui est passionnant de ce point de vue-là. Et ma mère me dit souvent, mais la revue récemment, elle m'en reparle souvent, me dire, mais c'est un film qui dit, on allait aux Capoulades, effectivement, boulevard Saint-Michel, on était obligés de, on pouvait pas avoir d'intimité, il y avait vraiment cette espèce de société bloquée. Qui annonce l'explosion de mai 68. Et ça, Clouseau, on peut dire tout ce qu'on veut sur la nouvelle vague, la qualité française, mais enfin, qui a montré ça, c'est pas tellement la nouvelle vague, c'est plutôt Clouseau, avec ce film magnifique.
Bardot, vous pourriez la faire tourner ? C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous qui êtes toujours à la recherche de monstres sacrés, de personnages, avant même d'être des acteurs.
Aujourd'hui ?
Ouais.
Ah, aujourd'hui, s'il y avait, oui, un personnage, un film qui, d'un seul coup... impose, oui, bien sûr.
Ouais, vous tenteriez de la convaincre.
Oui, oui,
elle reviendrait pas, mais en tout cas,
Ah oui, moi je suis pas du tout. J'adore toutes ces figures mythologiques. Moi, je prends.
Mais vous allez avoir de plus en plus de mal à en trouver, en tout cas dans le cinéma.
Oui, c'est la fin d'une époque.
C'est la fin d'une époque. Ça pour Noël Herpe, c'est une
non,
phrase.
Non, mais il faut pas être nostalgique
mais
en
non.
disant ça.
Ah ben, on peut dire ça. C'est pas être un constat. C'est pas forcément nostalgique. À partir de là, justement, quel est le film préféré de Clouseau de tous les spectateurs que vous avez rencontrés ?
Ah ben, c'est toujours Les Diaboliques. C'est ça qui est terrible, c'est qu'à chaque fois que j'arrive, c'est Les Diaboliques, voilà. Et c'est surtout les exploitants qui veulent absolument passer Les Diaboliques, qui est vraiment pas son meilleur film. C'est lourdingue. Ça dure 2h20. On n'en peut plus. On a compris dès le départ ce que ça allait être.
Et c'est comme ça que vous intervenez, par exemple, quand vous devez présenter.
Ça donne
diabolique.
Vachement envie.
Ça donne vachement envie. Le livre, c'est ça. Ouais.
Bah maintenant, j'ai trouvé quand même une clé d'entrée qui m'intéresse un peu. Et il y a un moment où je délire, à un moment, je commence à présenter le film et à pu dire, mais finalement, le cadavre de Paul Meurice qui ne remonte pas à la surface, c'est la culpabilité de la Seconde Guerre mondiale qu'on n'arrive pas à mettre en scène. Tout d'un coup, là, j'ai trouvé un truc pour m'intéresser à ce film qui est vraiment pas celui de Clouseau.
Et j'imagine qu'il y a un flottement dans la salle quand vous déclarez une chose pareille. Ou une incompréhension.
Non, alors il y a toujours dans ces cas-là une dame qui est très lacanienne et qui me fait des jeux de mots lacaniens ou qui essaie de me fourguer un peu sa grille d'analyse. Mais c'est vrai, non, c'est pas le Clouseau que je préfère.
Votre Clouseau, c'est lequel alors ?
Ma thèse, c'est que si les gens aujourd'hui sont focalisés sur Les Diaboliques, enfin les gens qui connaissent mal l'œuvre de Clouseau, c'est parce que.
Connaissent rien d'autre.
C'est aussi parce que c'est son film, si j'ose dire, qui hantait Lynchien. C'est-à-dire, c'est celui où il invente le switch de récit, le retournement de pitch, et tout d'un coup, une espèce de côté interactif et virtuel de récit qui aujourd'hui nous fascine.
Ouais, une toute puissance du scénario.
Puissance du scénario, au détriment peut-être de l'efficacité, en fait. Hein, puisque...
Picasso aussi, ça vous irrite.
Alors Picasso, c'est embêtant parce que vous présentez, j'en ai présenté en fait 50 des débats sur Clouseau, mais effectivement, bon, j'ai une certaine expertise qui est relative, mais que les gens respectent. Et puis dès qu'on parle de peinture, les gens croient s'y connaître autant que vous. Alors quand on parle de l'expressionnisme, quand je dis par exemple que l'expressionnisme, ça n'existe pas dans le cinéma, mais uniquement en peinture ou dans le théâtre, mais que c'est pas du tout un genre cinématographique, contrairement à ce que croient 95% des gens. Là, les gens me cherchent des poux, alors comme je suis pas historien d'art, je suis très gêné, et je bats prudemment en retraite. Bon, pareil sur Picasso, j'ai eu le malheur de dire que le mystère Picasso était un film qui montrait pas vraiment le génie de Picasso, ni même la pensée de Picasso, comme ça a été programmé à l'époque, on nous disait, voilà, un film bergsonien, etc. Non, il nous montre le geste de Picasso, pas plus et pas moins que le faisait Sacha Guitry quand il faisait ceux de chez nous et qui montrait le vieil Auguste Renoir agitant des pinceaux sur une arthritique agitant des pinceaux sur une toile. Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre dans un film que le geste du peintre? C'est quand même, ce serait complètement utopique de prétendre montrer sa pensée. Alors il y a toujours des gens pour dire ah mais non, je trouve que ce film montre l'intelligence, le génie, la pensée de Picasso. Alors dans ce cas-là, je me tais et puis on passe à autre chose parce que c'est je déteste la polémique, comme vous l'aurez compris.
Comme oui, enfin presque. C'est ce que l'on peut voir donc dans Souvenir écran, Voyage en France 2017-2018. C'est paru aux éditions Bertillat, bien sûr. D'abord sur ce titre, puisque vous parlez toujours d'une dame lacanienne qui vous fait des jeux de mots, j'imagine que Souvenir écran, ils doivent se régaler.
Bah, Souvenir écran, oui, c'est un titre qui s'est imposé un peu à moi parce que, au fond, la vie pour moi est un, je suis un fantôme, quoi. Je me repais.
Ça veut dire quoi? Vous le dites souvent. Ça veut dire quoi véritablement pour vous d'être un fantôme? C'est-à-dire que vous êtes déjà...
J'ai l'impression d'être prisonnier de représentations qui m'ont fasciné dans mon enfance et dont j'arrive pas à me défaire.
Qui sont?
Des films que j'ai adorés, des actrices que j'ai adorées.
Debbie Morley.
Oui, mais pas seulement. Enfin, non, plein d'actrices.
Ces actrices de cette génération-là, voilà, les années 40.
Oui, les années 30, plutôt, 30-40, une sorte d'âge d'or du cinéma français d'avant la guerre, d'avant le déluge. Des images de l'innocence.
Mais des images dont vous n'êtes absolument pas le contemporain.
Non, parce que mes parents, ils aimaient La Nouvelle Vague, ils aimaient Anna Karina, ils aimaient Le Mépris, etc. Et moi, je les exaspérais parce que c'était plutôt Quai des Orfèvres, Le Quai des Brumes ou Hôtel du Nord. Et ils s'arrachaient les cheveux parce que mes parents lisaient Anaïs Nin et Henri Miller et moi, je lisais Mauriac et Julien Green. Donc, j'étais complètement décalé. Mais effectivement, j'ai toujours recherché une espèce de paradis d'avant ma naissance. Un monde comme ça, un peu idéal.
Ça veut dire que vous n'auriez pas
voulu naître? Je suis prisonnier aujourd'hui, peut-être.
Ça veut dire que vous ne vouliez pas naître? Vous n'auriez pas aimé naître?
J'ai l'impression d'être jamais vraiment né, de m'être toujours réfugié dans des limbes et d'être toujours un peu décalé par rapport au monde d'aujourd'hui. Pas du tout par nostalgie, par une espèce de décalage ontologique qui fait que je suis pas vraiment là. Même là, quand je vous parle, je suis pas tout à fait là. Je suis toujours un peu à côté de la plaque. Et ça produit de la mélancolie, mais aussi de l'ironie.
Ah ouais, oui, et du burlesque.
Voilà. Et du burlesque, parce que je me moque des autres. On l'a dit, je crois pas que ce livre soit pour autant très méchant, mais je me moque surtout de moi-même.
Alors, on va en parler justement. Un tour de France, vous apparaissez en VRP de Clouseau dans des villes un peu partout. Un périple où on vous voit arriver dans des hôtels que vous jugez souvent minables. En tout cas, pas à la hauteur de ce que vous pensez être. Pas même une coupe de champagne à commander. C'est vrai que vous êtes un fou de champagne, oui. On vous voit en discussion avec ceux qui vous invitent, des passionnés de cinéma, pas forcément à la hauteur de vos espérances. On vous voit donner des conférences devant des publics peu nombreux, un peu âgés. C'est à la fois comique, désespérant, désespéré, et vous errez comme un fantôme, mais en fait, vous ne vous épargnez pas. C'est vraiment cela. C'est presque un exercice d'auto-flagellation, et je sais que vous aimez ça.
Oui, mais c'est pas par masochisme, c'est parce que je pense que aujourd'hui présenter des films, c'est un peu des films de répertoire, c'est quelque chose qui n'a plus beaucoup de sens. C'est mon côté Don Quichotte, mais est-ce que finalement toute position littéraire n'est pas celle d'un Don Quichotte? La littérature, c'est vient de ça, en passant par Madame Bovary, par des livres de Monterland que j'adore, par exemple, comme Le Chaos et la Nuit, Les Célibataires. Il faut se représenter comme un peu minable pour arriver à rencontrer une certaine forme de sublime, peut-être un sublime littéraire. C'est vrai que je me suis beaucoup emmerdé dans cette tournée, j'étais seul, mon petit copain m'avait largué, j'étais là dans une espèce de désespérance, je buvais, on m'emmenait dans des kebabs alors que j'espérais des restaurants étoilés. Bon voilà, et puis on me fichait dehors des hôtels à 8h du matin parce que maintenant vous savez, vous pouvez plus rester dans un hôtel matin, c'est pas possible.
Donc ils font les chambres.
Voilà,
comme s'il y avait des gens qui arrivaient à partir de midi.
Oui, vous arrivez à Niort à 8h du soir, les restaurants vous disent "Ah ben on sert plus."
C'est bizarre que vous choisissez Niort, vous savez que c'est la ville la plus laide du monde selon Michel Houellebecq.
C'est pas mon avis hein, c'est pas mon avis, mais comme c'est la ville natale de Clouseau, je la prends un peu comme paradigme. Donc voilà, il y a une espèce de... Je m'enfonce dans le néant, en tout cas dans une espèce de dessaisissement de ma situation sociale qui est finalement pas tellement géniale. J'essaie de me détacher de moi-même, de me moquer de ma prétention et de trouver dans ce vide quand même des raisons d'espérer, des raisons de m'émerveiller. Voilà. Et je m'émerveille. Et à partir du moment où vous êtes complètement déchu, complètement clochardisé, vous pouvez vous émerveiller de rien du tout, quoi, d'un ticket de métro au sol, d'une grue qui actionne du sable sur un quai désert, d'un enfant qui tient la main de ses parents dans la rue, d'un beau garçon que vous croisez à la terrasse d'un café, de micro-scènes comme ça qui vous redonnent des raisons de croire à la vie.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Guillaume Niclou? Vous pourriez en faire un personnage de votre cinéma.
Oui, mais franchement, je sais pas pourquoi.
J'étais sûr que vous...
Je sais pas pourquoi, mais vous me faites penser à Luc Moulet.
Oui,
ah bah,
oui,
tu
oui,
parles. Oui, alors, Luc Moulet, qui c'est?
On m'a parlé de Cavalier, mais Luc Moulet, c'est encore plus juste.
Oui, je trouve que c'est plus juste, Luc Moulet. Il y a quelque chose comme ça, de l'ironie, la moquerie, enfin, mais quelque chose qui est pas méchant. Enfin, il y a quelque chose.
Non, il n'y a pas de cynisme.
Il y a quelque chose de
ludique. Aucun cynisme.
Voilà, dans cette posture-là.
Non, il y a une énorme espérance.
En quoi?
Espérance dans la révélation.
L'espérance dans la désespérance.
La révélation que toute cette absurdité a un sens et que dans cette errance vaine, je vais quand même trouver une raison de vivre.
Alors, vous allez chercher justement la maison de vos origines, en fait.
Absolument. Alors,
c'est-à-dire, c'est à la fois un journal de bord, le journal qu'on tient quand on voyage et qu'on s'emmerde, quand on devient le VRP de Clouzot, mais c'est aussi un journal intime, c'est-à-dire dans la grande tradition de ce que vous aviez déjà écrit auparavant. Et là, ça vous permet quand même, ce voyage sur Clouzot, d'aller à la recherche de la maison familiale.
Oui, alors maison, ma mère a été cachée sous l'occupation, maison mes parents ont vécu avant ma naissance à Verrier-du-Lac, à côté d'Annecy, maison de Cancale où j'ai connu des années de bonheur en vacances quand j'étais petit, etc. J'y crois pas vraiment, parce que finalement je me retrouve un peu dans un film à chaque fois. Il y a toujours cette idée de réactiver le film. Le film, c'est comme forcément quelque chose de mort, le film de notre jeunesse, le film de notre passé et les films que nous avons aimés, etc. Donc j'essaie quand même de réactiver la mécanique. Ça marche pas tout à fait. Ça se fait généralement d'après des photos que j'ai vues quand j'étais enfant et qui me permettent de ranimer le souvenir. Mais je crois au fond que ça sert pas à grand chose. Et je le dis dans le livre d'ailleurs, comme nous l'a très bien appris Marcel Proust, il faut pas chercher à fixer l'image. C'est ailleurs que ça se passe. Je le dis à un moment, c'est pas dans la fétichisation de la trace du passé que ça se passe, c'est plutôt dans une espèce d'énergie qui vient ranimer les images, c'est-à-dire une sorte de désir intérieur qui fait que tout d'un coup ça va se remettre à bouger au moment où vous y attendez le moins.
Souvenir écran, ça vous fait penser à quoi? Quel est votre propre souvenir écran, vous?
Là, c'est peut-être un peu violent, mais j'ai un souvenir écran très fort. J'en parlais hier encore avec ma psy, d'un moment où j'ai surpris ma mère en train de faire l'amour avec son amant. Et c'est un souvenir écran qui m'a marqué durablement. J'en ai parlé dans un de mes livres, mais c'est une primitive. C'est peut-être quelque chose qui a contribué à m'exclure d'une certaine forme de sexualité normale. Mais en même temps, ça m'a amené à être dans la sublimation la plus totale et à rêver la sexualité au lieu de la vivre.
Souvenir écran pour vous, Noël Herp? J'attends une révélation aussi forte.
Souvenir écran?
Ouais, un souvenir écran.
Souvenir écran, mais je crois que c'est la mort de Bambi. La mort de la maman de Bambi, en fait. Ça, c'est sans doute l'image qui continue de me hanter. C'est la mort de la mère, en fait.
Bah, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça rejoint un peu ce que je viens de dire, d'une autre manière. La mort de l'image de la mère, en tout cas.
Oui, et puis surtout dans un cadre aussi qui continue de me hanter, qui est celui de la forêt. Donc il y a comme ça...
Qui était dans le confin du monde.
Oui, et puis dans Zienne, enfin, dans cette femme-là, il y a toujours cette double peine. Voilà, c'est-à-dire la perte de la mère dans un lieu qui a comme ça une connotation. Et là, encore une fois, la mythologie du récit a une grande importance. Hein. Tout ce qui touche au texte, au conte, aux peurs enfantines, là, c'est très puissant.
On vous a demandé un son, on l'écoute.
Oui, c'est
pour qui sonne le glas.
C'est pas tout à fait le son auquel j'avais pensé.
Eh ben, c'est jamais le son auquel on pense. Non, vous aviez demandé quoi, toxa, là, bon.
Non, c'est plutôt les cloches du dimanche matin, quoi, si vous voulez. Ça m'a marqué quand j'étais enfant, à Cancale, justement, avec ma grand-mère, on allait rue du Port, on faisait des courses, et ces cloches qui sonnaient à toute volée et qui affirmaient quand même une joie, un bonheur catholique peut-être, mais un bonheur quand même, m'ont beaucoup marqué. Oui, cette idée, il y avait une harmonie qui s'exprimait là, l'idée que tout avait sa place, tout avait un sens.
C'est ce que l'on peut retrouver d'une certaine façon, cette idée du bonheur, dans Souvenir écran aux éditions Bartillat. Puis je signale aussi Fantasmes et fantômes, on n'a même pas eu le temps d'en parler, pourtant on a passé le temps, hein, sous le label Tamaza ou Tamassa ?
Tamaza. Tamara, c'est ma boîte de prod, et Tamaza, c'est l'éditeur de ce film que j'ai réalisé il y a quelques années, avec un jeune peintre, Cyril Duret, qui en a conçu brillamment les décors, et dont je joue à chaque fois le rôle principal, puisque c'est trois sketchs tirés de pièces d'épouvante et d'une pièce de Courteline. Et vous disiez que vous étiez passé par le théâtre pour aller vers le cinéma. Moi, c'est un peu le contraire. Je fais du cinéma pour retrouver mon amour du théâtre.
Il est temps de parler musique maintenant avec Marion Guilbeault pour les nouveautés nouvelles. Ce sont les dernières de la saison.
Rendez-vous. Quel genre de musique joue-t-on en général chez vous?
Oh, n'est pas difficile. Ici, on aime tous les genres. Country, western.
Vous êtes des policiers?
Non, madame. Des musiciens.
Un souvenir écran pour vous, Marion Guilbeault?
Un souvenir écran pour moi. Oh, je sais pas, il y en a trop. Il y en a trop. Frix, peut-être, vous l'avez dit tout à l'heure. Pareil, cinéma de minuit, voilà, avec les sœurs siamoises.
Très bien. Moi, c'est Dario Argento, une femme qui se fait décapiter.
Ça ne m'étonne pas. Pourquoi ça
ne
m'étonne pas, une femme qui se fait décapiter? Alors, on a tous remarqué, hein, Laurent, cette obsession pour les années 80. Mais en 2020, ça va changer. Il n'y en aura plus que pour les années 90. Ça se voit déjà dans la mode. On parlait du retour de la banane l'autre jour au café. Et ça commence à s'entendre dans la musique Alors, justement, les années 90 en musique, ça ressemblait à quoi? Eh ben, c'est pas évident de s'y retrouver. Il y avait les guitares bien vénères de Nirvana, il y avait les samples du rap, il y avait les boucles de la techno, il y avait les brumes du trip-hop. Bref, un sacré bazar, comme dirait Arnaud. Et il y avait aussi une prise de conscience que tout ça, ça allait pas durer, avec un retour au do-it-yourself. Alors, ces sons, cette démarche, on les retrouve dans l'ADN musical de Julius Spellman. C'est un jeune Rouennais qui ne tombe pas pour autant dans le piège d'une fusion facile entre tous les styles énumérés plus haut. Non, il sait se faufiler avec sa voix rageuse dans une pop désinvolte avec un son un peu crade, totalement à contre-courant de tout ce qu'on entend aujourd'hui, mais toujours inspiré. C'est un peu comme si Beck s'était perdu dans le bocage normand.
C'est bien,
il s'appelle Julius Spellman, Poison, c'est extrait de son premier EP, Lover, L'Honneur, Loser, c'est un journal de bord de sa loose sentimentale, ça sort demain. Alors c'est la première de mes recommandations musicales, Laurent, et c'est pour aller où ça? Bah par exemple sur la côte atlantique, la côte pacifique, et avec qui?
Bah je sais pas.
Ah bah avec un cousin, un copain surfeur, ou alors un jeune chien fou. Un jeune chien fou qui porte des chemises courtes avec des homards dessus par exemple.
Ah c'est moi.
Ah pas mal. Années 90, toujours avec un retour au trip-hop, cette musique imaginée sur les docks de Bristol. Ce mix entre une mélancolie très new wave et les sons du hip-hop. Les héros de l'époque s'appelaient Massive Attack, Portishead. Et celle qui a repris le flambeau, c'est une jeune française, Sarah Sarah. Elle est DJ, auteur-compositeur, vidéaste. Et sa musique sonne comme une catharsis aux tragédies qu'elle a traversées, enfant, adolescente. C'est une résiliente qui ne craint pas d'affronter ses fantômes. En 2014, elle s'est fait remarquer avec une reprise de Heroes de David Bowie. Ça lui permet de s'installer en Angleterre. Là-bas, les bonnes fées de la musique se penchent sur son travail. Il y a le grand producteur électro Matthew Herbert, le prestigieux label de Björk One Little Indian, qui sont à ses côtés pour l'aider à accoucher d'un premier album, Amor Fati, avec un titre très nietzschéen. C'était un disque énigmatique, introspectif. Elle se prépare, Sarah Sarah, à publier le nouveau. C'est toujours au croisement du trip-hop, du R&B, de l'expérimental. C'est toujours teinté de philosophie, de spiritualité. Je vous invite à aller regarder ses vidéos. Elle en a réalisé quelques-unes dans le Musée des Beaux-Arts de Lille. Elle est vraiment une jeune femme étonnante, pleine de ressources, pleine de mystères. I like the smell of your hair. I love you beneath the sky. And when your skin is bare. I love you just as listen to me, baby doll. Don't mess with me, baby. Sarah Tinker Toy, elle est ici en duo avec Pete Doherty des Libertines. C'est extrait de son nouvel album Orgone, ça sortira sur One Little Indian le 5 juillet.
Qu'est-ce que vous écoutez, vous, Guillaume Niclot, comme musique?
En ce moment?
Ouais.
En ce moment, pas mal de rap. Nipsey Hussle, enfin, XXXTentacion, pas mal de rap émo, en fait.
Et de votre côté, Noël Herpe?
De l'opérette.
Arrêtez, sûr.
J'ai adoré Mlle Nitou, ce théâtre Marigny. Bah, dimanche, super. Je vais voir Madame Favard à l'Opéra Comique. Tout se tient.
Tout se tient.
Alors, on finit ce retour vers le futur avec un groupe de Washington qui porte le nom de ce que sera peut-être la nouvelle couleur politique des États-Unis en 2020. En tout cas, on leur souhaite, on croise les doigts pour eux, pour nous. Le groupe s'appelle Gauche. 5 musiciens, 3 filles, 2 garçons, et c'est rien de dire qu'ils ne sont pas très contents après l'establishment américain. Gauche, c'est vraiment l'expression collective d'une colère, d'une frustration, d'un traumatisme. Mais là où ces outsiders de la pop sont malins, c'est qu'ils ne la jouent pas vociférant avec les guitares dans le rouge. Non, Gauche a choisi de mener son combat contre, je cite, l'anxiété, le capitalisme, la colonisation, les blessures anciennes, le patriarcat, ça fait beaucoup. Non, leur combat passera par l'art, si celui-ci sait conserver une dimension artisanale, et avec une musique assez cousine de celle jouée par Divo, les B-52s, parce qu'avant 90, il y avait 80, allez, dansez maintenant.
Oh,
Flash, c'est vrai que c'est très B52, un extrait de A People's History of Gauche qui sort le 12 juillet sous le label Merge Records. C'est signé Gauche et pourtant la programmation est impeccable de Marion Guilbeault. Marion, vous voulez ajouter un mot?
Oui, je voulais juste dire un grand merci à Marion Lelay et à Juliette Medevielle, les monos et stéréos de ces chroniques musicales. Merci les filles.
Merci les filles. Et oui, le énervé, première partie, c'est fini. On se retrouve dans 15 minutes après le journal avec ça.
Conformément aux engagements du président de la République, il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes.
Et oui, consonne P, consonne M, voyelle A, PMA, le compte est bon, c'est le débat du jour. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.